Bonjour. Comme Daniel a dit, le français, ça vient pas vite pour moi. Alors, je pense en anglais, je dois traduire en français, puis après, ça sort. Et souvent, ça sort pas conjugué correctement. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi, corrigez-moi et... Ne me laisse pas suer ici tout seul. Oui. c'est ça, oui. Comme Abou l'a dit, je travaille avec des colporteurs, plus spécifiquement avec des jeunes. On a des programmes qu'on fait durant l'été. Et des jeunes de partout dans le monde, puis ça vient, puis ils viennent. On a aussi des programmes durant toute l'année, des jeunes qui veulent avoir une expérience missionnaire, aller dans la communauté, à commencer à frapper aux portes, rencontrer les gens là où ils sont et donner un message d'espoir et d'espérance aux personnes. Alors, j'ai, même peut-être ce soir, je vais partager beaucoup plus d'expérience que j'ai eue, mais ce matin, je voulais... Quelle heure est-il?
Early?
J'ai 30 minutes à peu près. Parce que mon sermon, c'est à peu près 2 heures de long. Je voulais parler de Jésus qui frappe à la porte. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi. Apocalypse chapitre 3. Je pense que le meilleur colporteur... Tu sais, ma femme et moi, nous vivions un peu à Hull, à Gatineau, parce que c'est moins cher de vivre à Gatineau qu'à Ottawa. Puis je me rappelle quand on a déménagé dans notre appartement, j'ai dit à ma femme, on ne peut pas vivre ici. Elle dit, pourquoi? Il y a un signe qui dit, pas de colporteur. Souvent, on trouve beaucoup de signes comme ça dans les maisons. Mais Jésus, il est un colporteur. Il frappe à les portes. Les portes, c'est un peu différent. C'est les portes du cœur. Et Apocalypse chapitre 3, on nous montre l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est notre église. Et je vais utiliser le terme laodicéen. Ça existe-tu, ça? OK, un laodicéen. Et Jésus parle à cette église, qui est vous et qui est moi. Chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 14. C'est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et quoi? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, quand vous étudiez les églises de l'Apocalypse, c'est la seule église vraiment que Dieu n'a pas quelque chose de bon à dire à propos. Chaque autre église, il y a un petit quelque chose de bon. Il y en a des églises qui sont louées tellement qu'ils sont des bonnes églises. Mais cette église est très, très dans un état pitoyable. Et c'est vraiment notre condition. Et souvent, quand on lit ça, on dit, mais c'est pas vraiment ma condition à moi, c'est pas vraiment notre condition de l'église. Et si on dit cela, c'est la preuve que le texte est vrai. Parce que le texte dit que non seulement tu es pauvre, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Alors, ce qui est triste, ce n'est pas que la personne ou le Laodicéen est triste, est pauvre, il est malheureux, il est nu. Mais ce qui est très triste, c'est que l'Odysséen ne connaît pas qu'il est pauvre. Il ne sait pas qu'il est malheureux. Il ne sait pas qu'il est nu. Ça, c'est quelque chose de triste. En état pitoyable. Tu sais, quand j'étais à l'école élémentaire, je me rappelle un incident. Il y avait une fille qui avait demandé d'aller à la toilette. Elle est partie. Puis genre, la manière dont la classe était située, genre le tableau était ici et tout le monde fait face au tableau et la porte était ici. Alors, quand quelqu'un rentre dans la salle, tout le monde voit la personne. Puis je me rappelle que elle est rentrée dans la salle et tout le monde a commencé à rire. Juste, il y en a qui avaient les larmes aux yeux. Puis là, elle a dit « Quoi? 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 » Commençait à être fâchée. « C'est quoi le problème? » Et ce qui arrive, c'est qu'il y avait du papier de toilette qui était attaché à ses chaussettes qui sortait tout dans le corridor jusqu'à peut-être probablement la toilette. Puis elle ne savait pas. Elle était là. Puis ce qui était encore plus drôle, c'est pas le papier de toilette, c'est que elle se défendait, elle devenait très enragée, mais elle ne savait pas que le papier... En tout cas, c'était très embarrassant une fois qu'elle a vu que ce qui est arrivé. Mais le problème, ce n'était pas le papier de toilette. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas. Parce que si elle savait, si elle voyait, elle aurait pu faire quelque chose du papier, elle aurait pu juste l'enlever et c'est fini. Okay? Mais elle ne savait pas. Je pense que quand on lit cet épisode de l'Église, le Laodicéen, moi, quand je lis ça, je vois de l'espoir. Je vois de l'espoir parce que la Bible nous dit que le Laodicéen, il est malheureux, il est nu, il est pauvre, il est aveugle. Et je pense, si seulement il pouvait voir, si seulement il pouvait voir sa condition, voir qu'il est nu, mais là, il va commencer à se couvrir. Ou si seulement il pouvait avoir la vue. Mais une chose, Jésus n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu es sourd. Il est aveugle. C'est pour ça, il est nu. Il se promène comme s'il avait des habits. Mais il est complètement nu, complètement malheureux. Mais il pense qu'il est riche, complètement pauvre. Mais il peut toujours entendre. Et c'est pour ça que Dieu, il dit dans verset 20, « Si quelqu'un entend ma voix. » Alors, tu ne peux pas voir ta condition, mais je frappe, puis je sais, tu n'es pas capable de voir, mais tu es capable d'entendre. Et si tu es capable d'entendre, si quelqu'un, juste quelqu'un entend ma voix, et peut-être tu trébuches vers la porte, pour ouvrir la porte, je vais rentrer, je vais souper et je vais commencer à te donner de l'or et toutes ces, la robe de la justice et toutes ces choses-là. Si quelqu'un entend ma voix, je pense que ça, c'est un des plus grands défis de Dieu. Il y avait deux voisins, ça fait longtemps qu'ils vivaient à côté, l'un à côté de l'autre, puis il y a un voisin qui avait un âne. Ça, c'est un âne? OK. Puis, l'autre voisin, c'était M. Smith. Puis, il a décidé, il a dit, « Hey, j'ai un bon âne. J'ai un âne à vendre. » Il a dit, « OK, M. Smith. » Il a dit, « Je suis intéressé. Vous allez bien le voir. » Ils sont venus voir. « Ouais, il était très fort, très beau. » OK. Il dit, « M. Smith, cet âne-là, il travaille fort. C'est un âne incroyable. Il va travailler du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Tu lui donnes juste un peu d'eau, puis un peu de graisse, puis ça fonctionne. OK. Je vais l'acheter. OK. Alors, M. Smith a emmené l'âne chez lui. Le lendemain matin, M. Smith, il commence pour... il met sa... son affaire pour... faire quoi?
Charrue.
OK. Il met une charrue derrière. Puis il dit, OK, on y va. Mais l'âne, il ne bouge pas. Il dit, hey, on y va. Vas-y. L'âne ne bouge pas. Il commence à tirer, à pousser, à tirer, à crier, à sacrer. Rien. L'âne reste là. Là, M. Smith, il est fâché. Il a dit, mon voisin, il m'a dit, ça, cet âne-là, il va travailler fort. C'est pas un âne obéissant du tout, du tout. Alors, il va chez son voisin, fâché, il dit, tu m'as vendu cet âne-là, il veut rien savoir. Il dit, attends, M. Smith, attends, on va aller voir. Alors, il est venu voir l'âne. Là, le propriétaire de l'âne, ou l'ancien propriétaire, il prend un gros 2x4. Quack! Sur le derrière de l'âne. Dépose ça. Allons-y. L'âne commence à partir juste comme ça. Dis, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Dis, ben, avant de parler à l'âne, il faut avoir son attention. Le plus grand défi de Dieu, c'est d'avoir notre attention. D'avoir notre attention. Et tu sais, la manière que Dieu utilise pour rentrer dans nos cœurs, c'est la même manière que nous devons maîtriser pour rejoindre les autres pour Jésus. Le plus que j'étudie la manière que Jésus utilise, le plus que je vois une manière efficace que nous ne devons utiliser pour entrer dans les cœurs des autres, pour Jésus. Premièrement, il faut avoir leurs attentions. C'est pour ça que la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 3, le verset 19, « Moi, je reprends et je quoi? Je châtie tous ceux que j'aime. » Souvent, Dieu, il a besoin de nous châtier parce que c'est la seule manière d'avoir notre attention. Malheureusement, c'est la seule manière. Si vous avez, vous tournez à Jean chapitre 9, on va lire brièvement l'histoire d'un aveugle et comment cet aveugle a pu trouver la vue. Et c'est un exemple, pour moi, je trouve un exemple d'un laodicéen spirituel et comment on peut être transformé. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que quoi? Les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, Seigneur, pourquoi cet homme est comme ça? Est-ce que c'est à cause de lui ou est-ce que c'est à cause de ses parents? Et Jésus dit ses parents, hein? Ou il dit lui? Il dit pourquoi? C'est quoi la raison? Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Le premier point que je veux qu'on, peut-être qu'on se rappelle aujourd'hui, c'est ton malheur, c'est ton bonheur. Ton malheur, c'est ton bonheur. Je ne sais pas, souvent ça m'est arrivé dans ma vie de pleurer. Je ne sais pas comment c'est la culture québécoise, s'il y en a. Si un homme peut pleurer ou pas. Aïe. Mais il y a des moments dans la vie où les choses deviennent si graves qu'on pleure. Et souvent, on ne pleure pas devant tout le monde. Ça ne serait pas macho. Il faut pleurer dans son coin. Mais souvent, quand des choses sont arrivées dans ma vie que c'était trop lourd, parfois je prends une marche, parfois je suis dans la douche, mais tu pleures. Et tu pleures tellement que tu ne peux même pas peut-être parler à Dieu. La seule chose que tu peux dire, c'est « Seigneur, pourquoi? 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 » Et comme si tu pourrais comprendre pourquoi ça te donnerait peut-être un sens ou une direction ou un réconfort. Je doute fort. Mais la nature humaine, c'est comme ça. Quand ça fait tellement mal, la seule chose qu'on veut savoir, c'est Dieu, pourquoi? Et tu sais, cet homme-là, il était né aveugle. J'ai eu l'opportunité, une fois j'étais au Thaïlande, en Thaïlande, puis j'ai eu l'opportunité de visiter une école pour les aveugles. Et c'est une expérience qui m'a donné tellement de peine. Parce que je rentre dans le gymnase, puis on allait faire genre quelque chose évangélique pour eux, c'était des bouddhistes. Puis là, tu vois les petits enfants, des tout petits. Et ils se tiennent par la main parce qu'ils ne peuvent rien voir. Puis ils commencent à rentrer. Au moins 200-300, ils rentrent. Tous, ils se suivent, comme ça. Puis de voir, ils étaient si mignons, si cute. Mais ils ne peuvent rien voir. Puis ils rentrent, puis ils s'assisent, ils commencent à parler. Je ne sais pas à qui. Ils commencent à parler. Ils ne peuvent pas voir la personne à côté d'eux, mais ils parlent. Ils sont tous contents. Et ils parlent. J'ai commencé à penser un peu. La plupart de ces jeunes-là, ils étaient nés aveugles. Et ils étaient contents de vivre, contents. On a chanté des chansons pour eux. Ils étaient contents. J'ai pensé à leurs parents. Un jour, maman a dû asseoir Philippe sur ses genoux pour lui dire, « Philippe, tu es aveugle. » C'est quoi ça, maman? Ben, Philippe, tu n'es pas comme tout le monde autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu ne vois pas. C'est quoi voir? Ben, tu sais, quand tu touches la face de maman, ben, comme ton frère, il peut voir la face. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut voir la face? Ça veut dire quoi? Ou quand Philippe vient, « Maman, l'herbe, c'est vert. C'est quoi vert? » Ben, vert, c'est pas bleu. Ben, c'est quoi bleu? Ben, bleu, c'est comme le ciel. C'est quoi la différence entre bleu et vert? Et tu peux réaliser qu'il y a des moments dans la vie de ce jeune homme qui a dû pleurer. Puis il a dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi je ne peux pas travailler comme les autres? Pourquoi je ne peux pas être normal? Pourquoi je dois mendier? Je peux réaliser que peut-être il est en train de pleurer, Dieu, laisse-moi juste voir juste un œil. Ou juste à moitié. Juste, Seigneur, guéris-moi. Et il a pleuré, peut-être crié, il a pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais le ciel, silence. Dieu dit à ses disciples, la raison que cette personne est née aveugle, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ton bonheur, ton malheur, c'est pour ton bonheur. Parce que quand les gens, quand nous et quand moi, quand nous passons à travers une crise dans nos vies, c'est là que Dieu a notre attention. Et c'est là qu'on réalise qu'on a besoin de quelque chose, de quelqu'un plus grand que nous. Je me rappelle quand mes parents se sont divorcés, j'ai tout fait, tout essayé pour voir si, pour moi, il y a une manière de résoudre ce problème-là. On parle à papa, on parle à maman, ça va fonctionner. Mais à un moment que tu réalises, tu peux parler. Il n'y a rien qui arrive. Et là, tu réalises que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas capable. Je ne peux rien faire. Le malheur t'aide à faire trois choses. La première chose, ça t'aide à te réaliser ton besoin. Ton besoin. Ça aide à réaliser ton besoin, que tu n'es pas capable. Numéro deux, ton malheur, ça t'aide à te tourner vers Dieu. La plupart des gens qu'on travaille, moi, quelqu'un séculaire. Quand je vivais aussi au Québec, maintenant je vivais à Hull, maintenant je vis à Oshawa. C'est vrai que les Québécois sont très différents, mais quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Dieu. Tu comprends? Et tu ne peux pas les approcher avec Jésus. Ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas malades. Pourquoi avoir une guérison? Pourquoi avoir une pommade? J'ai pas besoin de Jésus. Mais quand quelqu'un rentre dans une crise dans sa vie, la personne commence à réaliser qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Ils ne sont pas capables. Et là, la personne est prête à tourner vers Dieu. Reconnaître son besoin, tourne vers Dieu, et ça permet à Dieu d'accomplir un miracle dans ta vie. Je vais être honnête avec vous. Si ce n'était pas pour le divorce de mes parents et plusieurs autres choses qui se sont passées dans ma vie, je ne serais probablement pas un adventiste ou même un chrétien aujourd'hui. Je ne dis pas gloire à Dieu à cause de ces choses qui sont passées, mais ces choses m'ont aidé à chercher Dieu, à chercher pour quelque chose de plus profond dans ma vie. Réaliser que je ne peux rien faire sans Dieu, me tourner vers Dieu et permettre à Dieu de faire un miracle dans ma vie. J'ai rencontré une fille une fois. Je faisais du porte-à-porte dans un building, un gros building, genre 30 étages. À Toronto, ils sont très grands. Ben, à Montréal aussi, c'est un peu genre. Très grand. Puis, je me rappelle quand j'avais fini pour la soirée, puis il faisait à peu près 9 heures, j'étais fatigué, j'avais soif, j'avais faim. Je dis, je rentre à la maison. Alors, je suis rentré dans l'ascenseur. Quand je rentre dans l'ascenseur, je suis tout seul dans l'ascenseur. Le prochain niveau, l'ascenseur s'arrête. Il y a deux personnes qui rentrent dans l'ascenseur avec moi. C'est une jeune fille, puis un homme. Puis là, ils commencent à parler devant moi, pas à moi, mais entre eux. Puis, moi, j'ai jamais fréquenté naturellement des prostituées. Mais pour moi, la manière dont elle était, puis en plus de ça, elle a commencé à parler devant moi avec ce gars-là, ceux qui viennent d'avoir expérience dans leur chambre. J'étais tellement dégoûté que j'aurais pu leur... En tout cas, je ne vais pas dire ce que j'aurais pu faire. Mais pour moi, c'était « Ah! » Puis j'étais prêt à leur « rebuke them ». Ouais, voyons donc! Mais j'ai dit non. Dieu m'a dit non, prie pour eux. Parce que, spécialement la fille, parce que probablement, elle ne connaît pas Dieu. Assurément, elle ne connaît pas Jésus. Alors, au lieu de faire des reproches, j'ai fermé ma bouche et j'ai prié « Seigneur, elle ne te connaît pas. Fais qu'elle puisse te trouver. » Ding! L'ascenseur fini. On sort. On est parti. Complètement oublié. Moi, j'ai rencontré tellement de personnes dans ma vie. C'est très rare que je rencontre des gens encore une fois. Et même si je les rencontre, c'est eux autres qui vont me reconnaître, c'est pas moi. Mais je me rappelle à peine 3 semaines de cela. Je marche dans un centre d'achat, puis je vois la même fille. C'est « Wow, c'est drôle ça! » D'habitude, je ne rencontre jamais les gens, puis j'ai pu reconnaître la fille. Je ne pense pas qu'elle m'a reconnu. Mais j'ai prié pour elle une fois de plus. J'ai dit, « Seigneur, c'est drôle que je vois cette fille-là une fois. Seigneur, fais qu'elle puisse te trouver. Puis Seigneur, si tu veux que moi je sois l'instrument, je suis là pour toi. » Continue à marcher, on oublie ça complètement. 3 mois plus tard, je suis en train de frapper aux portes avec un membre d'église, une madame, qui était remplie, zélée pour Jésus. En tout cas, elle avait un esprit un peu trop pour le public, mais je lui ai dit, viens avec moi. Alors, elle est venue avec moi. Puis, on a frappé une porte, même scénario. On est dans un autre building, puis c'est l'heure de rentrer, je suis fatigué, on a fini aujourd'hui. Elle dit, non, on va frapper une dernière porte. J'ai dit, non, vraiment, il faut, c'est 9 heures, là, puis les gens, ils sont, non, une dernière porte pour Jésus. Elle dit, OK, on fait face à 7 portes. OK, la prochaine porte, c'est cette porte, la porte à côté. Alors, je dis, OK, pas de problème, on va partir. Non, Dieu me dit qu'il faut faire cette porte-là. Je dis, madame, on fait n'importe quelle porte, mais on va faire la porte vite parce qu'ils font. L'esprit, je ne sais pas c'était quel esprit, mais pour elle, c'était zélé. Alors, je dis, OK, on y va. On a frappé à la porte, on ouvre la porte. C'est qui ouvre la porte? La fille. Je dis, wow! Pour moi, choqué. Je ne pense pas qu'elle m'a reconnu, mais moi, avoir prié pour quelqu'un déjà deux fois, puis la prière, la deuxième prière est revenue à l'esprit. Hein? Peut-être Dieu m'utilise maintenant pour... Alors, j'ai commencé à parler, ce qu'on fait, et elle nous a dit, rentrez. Elle avait à peu près 18 ans, 19 ans, 20 ou 19 ans, elle vivait tout seule. Finalement, elle n'était pas une prostituée, elle était une coiffeuse. Je ne sais pas si... En tout cas, coiffeuse. Puis, puis ce jour-là, elle était malade. Alors, nous autres, on avait des affaires de santé. On expliquait comment prévention de drogue. Parce que d'habitude, on ne parle pas des choses spirituelles en premier. On parle de la santé, des affaires comme ça. Et graduellement, on bouge vers les choses spirituelles. Alors, on a commencé à parler toutes sortes d'affaires. C'était très sympa. Elle nous a écoutés, elle nous a parlé. Finalement, j'ai dit, « Hey, j'ai un livre pour... » Puis j'ai pris un livre. Puis le titre du livre, c'est « Les réponses de Dieu à vos questions ». Gros titre, c'est très religieux. Elle a vu le titre, puis sa face a changé. « Non, Dieu, non, non, je veux rien savoir de Dieu. Tu peux remettre ce livre-là dans son sac. » J'ai dit, « Pourquoi? » Elle dit, « Non, je croyais en Dieu avant. Je ne veux plus rien savoir de Dieu. » Puis là, elle a mumble. Elle a murmuré, ah, si Dieu il est si bon ou qu'il est de bon, pourquoi il a laissé mon père, pourquoi mon père il a été tué il y a 2 ans? Ça a l'air que son père, quelqu'un l'a fusillé. Souvent, ce que les personnes murmurent, c'est ça qui est plus important. C'est pas, d'habitude, c'est pas ce que les gens disent très fort. C'est souvent ce que les gens ne disent pas qui est encore plus essentiel. Alors, j'ai écouté ça. Et comme elle était jeune, moi, je me considère jeune, alors avec les jeunes, tu peux parler encore plus que peut-être les personnes âgées. Alors, je dis, pourquoi? Ben, si Dieu existe, puis si Dieu est bon, puis s'il a laissé ton père être fusillé, ben, tu ne voudrais pas savoir pourquoi? Le livre parfait! Les réponses de Dieu à nos questions! Il y avait un petit sourire, mais finalement, elle dit, « Non, je veux rien savoir. » Tu peux, « OK, pas de problème. » Alors, continue à le parler. On parlait de toutes sortes d'affaires. Ma madame zélée, elle a pris le livre, le même livre qu'elle a dit non. Elle a mis là, « Dieu m'a dit, tu as besoin de ce livre-là. » J'ai dit, « Wow! » J'ai essayé de... Ce qu'elle veut dire, c'est que... Elle ne voulait rien savoir du livre. OK, pas de problème. Alors, elle était très intéressée au livre de santé. OK, pas de problème. Elle est allée chercher l'argent. On a commandé. Elle a acheté. Une deuxième fois, ma madame zélée, elle a pris le livre encore. Elle a dit, « Je suis impressionnée. Tu as besoin de ça. » Elle m'a dit... Puis cette fois-ci, elle a hésité. Elle a dit, « Non, non. » C'est comme si elle avait... une bataille en elle, une lutte. Finalement, on a fini, son nom c'était Cindy. J'ai dit, Cindy, je sais que tu ne crois pas en Dieu, mais je peux-tu prier pour toi avant de partir? Parfois, il faut avoir du fun avec les gens. Puis, elle a dit oui. Elle a dit, ben, tu peux faire ce que tu veux. J'ai dit, OK. Alors, j'ai prié pour elle. Très simple, pour qu'elle puisse trouver Dieu. Quand j'avais fini la prière, les larmes aux yeux, ça coulait. Il y a tellement de gens, quand tu pries pour eux, ils sont tellement touchés. Madame a dit, mon prêtre, il vient chaque semaine, il mange ma dinde, il ne m'a jamais prié pour moi. Tu es le seul qui prie pour moi. Je dis, wow! Une madame, une fois que j'ai prié pour elle, la madame était comme ça. Puis j'étais avec quelqu'un. Puis j'ai fini de prier, j'ai dit, « Amen, elle est toujours comme ça. » Puis j'ai dit, « Amen, elle est toujours comme ça. » Puis souvent, on rencontre des gens qui ont perdu un peu la tête. Puis moi, j'ai dit, elle doit manquer une bille ou une quoi?
Une
feuille. Une feuille ou deux. Finalement, là, c'était, non, on doit partir. Alors, j'ai dit, madame, la prière est finie. Elle dit, oh, je m'excuse. Elle dit, j'ai 56 ans, puis j'ai jamais eu personne qui a prié pour moi, alors je m'excuse, je ne sais pas quoi faire. Pardonne-moi si j'ai fait quelque chose de mal. J'avais tellement honte d'avoir ri d'elle. Complètement normal. 56 ans, personne n'a jamais prié pour elle. Alors souvent, quand tu pries avec les gens sont touchés. Alors, c'est pour ça que j'offre de prier pour eux. Puis vous allez être surpris les gens qui vont accepter de prier avec vous. En tout cas, j'ai prié, les larmes coulaient, étaient très quiet,
silencieuses.
Ouais. Finalement, là, il fallait partir. Là, on a pris nos livres, puis on est allé vers la porte. Puis quand j'ai touché la porte pour ouvrir, il m'a dit « Jonathan ». J'ai dit « Oui ». Il a dit « C'est ton livre de Dieu ?» J'ai dit « Oui ». Il dit « Je vais le prendre, ce livre-là ». Il dit « Pourquoi ?» Il a dit « Je suis prêt à donner Dieu une seconde chance dans ma vie ». Quand je suis parti de cette maison-là, il y a beaucoup de leçons qui m'ont frappé. Premièrement, il ne faut pas juger le monde. La personne que je pensais était une prostituée, vraiment, c'est la personne que Dieu cherchait et qui cherchait Dieu. Elle cherchait des réponses pour sa vie. J'ai frappé à beaucoup de protestants catholiques qui ferment la porte, des bons chrétiens qui me claquent à porte au nez. Mais la prostituée, c'est elle qui prend. Première leçon, il ne faut pas juger. Donne à chacun, à chaque personne, à chaque porte, 100%, parce qu'on ne sait jamais ce que cette personne vit. Mais la raison que j'ai partagé cette histoire, c'est que le malheur de Cindy, c'était pour son bonheur. Ton malheur, c'est pour ton bonheur. Que Dieu, il laisse les choses mauvaises arriver dans ta vie et dans la vie de tes voisins, dans la vie des autres, les mauvaises choses, pour qu'on puisse réaliser qu'on n'a pas de puissance en nous. S'il n'y a pas des mauvaises choses qui arrivent, on a notre carte de crédit, on a la voiture, on a la maison, on a le bon travail, on n'a pas besoin de Dieu. Je suis Dieu. Dieu ne m'a jamais aidé. J'ai tout fait ça tout seul. Mais quand la grand-mère a le cancer, et là, on commence à appeler le prêtre, puis le prêtre, il prie, puis la prière du prêtre, il va nulle part, puis la mère commence à détériorer. Là, on a besoin, on a un vide, on ressent. Ton malheur, c'est ton bonheur. Ton malheur, c'est pour ton bonheur. Et c'est la même chose avec les gens qu'on rencontre de porte en porte. Juste vite fait. C'est pas exact, mais c'est genre, tu peux diviser le niveau d'intérêt spirituel dans la société un peu comme ça. C'est une personne qui a fait ça comme ça. Mais tu peux faire, on va dire moins 8, moins 6, moins 2, 2, 6, 8. Mais moins 8, c'est quelqu'un qui est complètement athée. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Moins 2, c'est quelqu'un qui est chercheur. Ça se dit ça? Chercheur? Seeker. Chercheur? 0, c'est le point de la conversion? En tout cas, si j'écris mal, pardonnez. Numéro 2, on va dire, c'est un bébé chrétien. Et 8, on va dire, c'est un full-fledged disciple de Dieu, genre vraiment il entend l'impression de Dieu, il dit c'est complet. OK? Puis, ce que cette personne nous disait, c'est que la plupart des gens, et c'est vrai, quand tu frappes au pas, la plupart des gens, ils sont à moins 8, à moins 6. Ils sont athées ou pas l'intérêt. Oui, je crois en Dieu, mais je m'en fous. Je vais à Noël, puis c'est tout. Alors, la plupart, la majorité, peut-être 80 à 90%, c'est moins 6 à moins 8. Mais le problème, c'est que quand on va faire l'évangélisation, on essaye de rencontrer les moins 6 à moins 8 comme les moins 2. Les moins 2, c'est quelqu'un qui cherche. Il voudrait savoir un peu plus. Ouais, il cherche. Puis on pense, OK, toute notre emphase, tout l'argent de l'évangélisation, on va faire des grosses campagnes, puis on va aller chercher les moins 8 puis les moins 6. Mais les moins 8 puis les moins 6, ils s'en foutent. Ils ne sont pas intéressés. C'est les moins 2. Alors, est-ce qu'il faut oublier les moins 6, moins 8? Non. On va toujours les atteindre, mais l'approche, c'est différent. L'approche, moi, je pense que la meilleure approche pour les moins 8, c'est l'évangélisation à travers... je vais arriver à l'homme, mais aussi à travers distribuer des imprimés, des affaires comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas parler de la religion, rien, mais tu peux parler de la santé ou quelque chose comme ça, et tu peux laisser quelque chose. Puis, jusqu'à temps qu'une crise va arriver dans leur vie. Puis quand la crise arrive, ils vont de moins 8 à moins 2, très vite. Parfois, ça arrive dans une journée, moins 8, complètement athée, la femme a le cancer, là, il veut tout trouver. Comment, Jésus, où es-tu? OK? Conversion, bébé chrétien, jusqu'à 8. Peut-être vous allez dire, la plupart de ma famille est dans le moins 8, ou les personnes moins 6, moins 7, moins 8. Comment est-ce que je peux les atteindre pour les emmener à un moins 2? Vous savez, dans chaque être humain, il y a un vide. Un vide que seulement Dieu, Jésus, peut remplir. Puis les gens, ils essayent de remplir ce vide avec trois choses. Un, c'est les relations. Ça, c'est les amis. Les choses sexuelles, les affections, les enfants, en tout cas, toutes sortes d'affaires, les relations. Numéro 2, c'est les possessions matérielles. Comment t'écris ça? Matériaux? Deux L? Matériel. Trois, c'est les statuts. Comment tu écris ça? Comment tu dis ça? Status. Position sociale. Oui, statut social, en tout cas. On va finir ça vite. OK. Alors, juste vite fait. Relation, possession, possession matérielle et les positions sociales. Ça, c'est les trois avenues les plus communs que les gens utilisent pour remplir le vide spirituel que seulement Dieu peut remplir. Puis, c'est seulement quand quelqu'un réalise que ces choses, il commence à perdre toutes ces choses et réalise que, « Hey, j'ai vraiment besoin de Dieu », ou l'inverse, quand quelqu'un a toutes ces choses-là et commence à réaliser, « J'ai tout, mais j'ai rien ». Alors, une autre crise comme ça. Mais la plupart des gens, c'est l'autre crise. On est des pauvres, puis on veut avoir matériel, etc. OK? Alors, ce qu'il faut faire capitaliser, c'est-tu un mot, ça? Capitaliser. Il faut capitaliser sur les crises. Les crises. que les gens ont passé à travers ou sont en train de passer présentement. Alors, peut-être... Tu as quelqu'un dans ton travail qui sourit, etc. Mais cette personne est en train de passer à travers un divorce. OK? Ou il y a quelqu'un qui sac, qui fume, puis tout le kit, la bière, puis des grosses jokes. Mais sa mère a le cancer. Et tu sais, quand tu es capable de connaître ces choses, et Dieu, il t'aide, quand tu pries, Seigneur, guide notre conversation pour qu'on puisse avoir quelque chose. C'est incroyable comment Dieu peut guider la conversation pour que tu puisses, si tu écoutes, tu vas trouver c'est quoi la crise qu'ils ont passée. Peut-être que ça fait 8 ans déjà, maman il est mort, mais maman est mort, mais c'est toujours chaque jour je pense que ma, j'y pense que ma mère est morte. Ok? C'est crise. Et capitaliser sur ça. Moi, souvent, je prends des comment t'appelles ça? Des pousseurs? Ouais. Des autostoppeurs, ouais. Puis j'utilise ça tout le temps. J'utilise l'acronyme. Elle est trop québécoise ou quoi?
Elle est trop québécoise.
Ouais. J'utilise l'acronyme FORT. Puis, utilisez ça, j'utilise ça quand je frappe aux portes, j'utilise ça n'importe où. Fort, c'est une forteresse, ça se dit ça? Une forteresse. Les gens, ils ont toutes des forteresses. Puis pour rentrer dans leur cœur, il faut que tu passes la forteresse. OK? Puis pour briser à travers la forteresse, il faut commencer à parler de ces choses-là. D'habitude, dans ce niveau-là. On commence toujours avec la famille. Ah, oh, comment ça va? C'est ta femme? Combien d'enfants as-tu? T'as-tu des grands? Des grands? Non, merci. T'as-tu des petits-enfants, etc.? Après, ta occupation, les gens, c'est ton travail ou hobbies, passe-temps. Religion. Si quelqu'un, genre musulman, quelque chose comme ça, islam, tu commences à leur parler, ah, oh, ils sont contents de te parler de leur religion. C'est pas tout le monde. OK? Alors, il faut être très. Il y a des gens, ils n'ont pas de religion, mais ils aiment parler de leurs valeurs. Ou ils s'enchaînent après des arbres pour sauver la nature. Ça, c'est quelque chose qu'ils sont vraiment. Et témoignage. Donc, tu vois, le témoignage que ce que Jésus a fait pour vous, c'est très puissant. Mais d'habitude, c'est la dernière chose dont on parle. On parle premièrement de la famille, la culture, etc. On va de la culture à l'occupation, etc. En tout cas, ça, c'est juste des petits points que vous pouvez prendre. Le premier point, juste deux points, je vais couvrir ici. Jésus trouve quelqu'un d'aveugle. Les disciples lui demandent, c'est qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Jésus dit non, c'est pas ses parents, c'est pas lui, c'est à cause que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Son malheur, c'est pour son bonheur. Alors, à cause de cette personne, cet aveugle-là, il n'a pas ses relations, il sait. Ses parents, même si tu continues de lire l'histoire, les parents, ils disent ses possessions, il n'a rien, il est en train de mendier, il n'a pas de position sociale. Cette personne, il réalise j'ai rien, j'ai besoin d'un. C'est pour ça que quand Jésus crache, le Créateur crache dans la boue, « Monsieur, il a 25 sous, 25 sous, s'il te plaît, 25 sous. » Il y a une foule. Il y a une foule. « Hey, 25 sous, 25 sous, 50 sous, 50 sous, 50, n'importe. » Là, toute la foule s'arrête. « Ils vont me donner quelque chose. 50 sous, 50, 50 sous. » Tu penses, je suis malheureux, je suis né aveugle, je suis pauvre, je veux juste 50 sous. Puis là, c'est comme si deux petits garçons pour avoir du fun, il crache dans la boue, il se met ça. C'est la dernière chose que j'ai besoin, c'est la boue dans la face. Mais ce gars, il réalise, j'ai rien. J'ai besoin de l'aide. Et, incroyable, ton malheur, c'est pour ton bonheur. Il reconnaît ton besoin, ça t'aide à tourner vers Dieu et ça te permet à Dieu d'accomplir un miracle dans ta vie. Le dernier point, Dieu lui dit en verset 6. Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie quoi? » Envoyé. C'est en allant qu'on est guéri. Jésus lui dit, « Lave-toi dans ce lac-là. » Mais c'est quoi le nom du lac? Au réservoir. C'est quoi le nom du réservoir? Envoyé. C'est en allant qu'on est guéri. Tu sais, ça, c'est exactement mon expérience. Il y avait 10 lépreux dans Luc qui sont venus vers Jésus et disent, Jésus, aie pitié de nous. Parce qu'ils avaient entendu que Jésus avait même touché un lépreux. Il avait guéri le lépreux. Et Jésus va faire la même chose avec nous. Mais Jésus, il les voit, il ne vient même pas les voir. Il dit, « Hé, vous autres, allez vous montrer au prêtre. » Pourquoi? Juste, allez vous montrer au prêtre. Ben, premièrement, guéris-nous. Après, nous irons voir le prêtre. Non, Jésus dit, « Allez. » La Bible nous dit, c'est en allant qu'ils étaient guéris. Alors qu'ils sont en train de courir voir le prêtre, des doigts se remettent en place, des oreilles se remettent en place, la chair devient comme la chair du bébé. Ils commencent à sauter. Ils ont, l'eau, il n'y avait plus de jambe. Une jambe commence à sauter, à crier. Ils auraient pu dire, comme moi, probablement j'aurais fait, « Jésus, pourquoi aller voir le prêtre? La dernière personne que tu as guérie, tu es venu, tu l'as embrassé, tu l'as touché, tu l'as aidé, tu l'as aimé, tu as montré ton amour. Mais là, tu ne viens même pas me dire bonjour, tu viens même pas me toucher, tu me dis d'aller. » Je suis tellement content qu'ils ont été. La Bible a dit, pendant qu'ils y étaient, alors qu'ils allaient, ils ont été guéris. Matthieu chapitre 28 nous dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Mon expérience, c'est la même chose. Peut-être que je vais partager plus tard. Mais c'est exactement la même chose. Moi, je ne suis pas un chrétien grand ou fort. Mais ma vie spirituelle est devenue plus forte. J'ai commencé à vraiment aimer Dieu juste quand j'ai été. Quand on s'assit devant la télé, on attend pour une force surnaturelle pour nous donner la force. On attend de vraiment comprendre toutes les philosophies, comment rejoindre les gens. Après ça, non, ça ne va jamais arriver. C'est quand on se lève et quand on y va. Oui, j'ai eu beaucoup j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais quand je vois mes amis et quand je vois beaucoup de personnes avec qui j'ai été élevé, et beaucoup, beaucoup sont même plus dans l'Église. Il y en a qui sont dans l'Église, mais ils vivent. Ils vont à l'Église comme on va à l'Église catholique et on revient à la maison. Et ils n'ont pas la joie de servir Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi être satisfait en vivant pour Dieu. Je me dis, merci Seigneur. En allant, on est guéri. Alors, deux points. Simplement, premier point, ton malheur, c'est pour ton bonheur. La même chose pour les autres que tu rencontres, leur malheur, c'est pour leur bonheur. Parce que le jour qu'ils ont eu quelque chose de malheureux, c'était Dieu a permis cela pour qu'un jour tu puisses venir frapper à leur porte ou un jour tu puisses travailler à côté d'eux pour leur parler, pour servir leurs besoins, pour être un ami, pour écouter, pour... Deuxième point, le deuxième point, c'est puissant. C'est c'est en allant qu'on est guéri. Merci. Moment de vieillesse. Ma prière pour nous, c'est qu'on puisse vraiment chercher Dieu. Pour qu'on puisse ne pas peut-être être triste ou blâmer Dieu quand les mauvaises choses nous arrivent, mais utiliser cela pour se rapprocher de Dieu et utiliser ces choses-là dans les gens qu'on rencontre pour parler de Dieu. Et je pense que Dieu va nous bénir. Et aussi d'aller. Il ne faut pas attendre qu'on soit toutes formées, toutes bien polies pour aller sortir pour Dieu. Ce que Dieu t'a donné, utilise-le. Et Dieu va te bénir. Prions ensemble. Bon et tendre Père Céleste, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie pour avoir guéri cet aveugle, qu'il a pu avoir la vue. Seigneur, nous avons aussi besoin de voir. Nous avons besoin de voir que nous sommes rien. Nous avons besoin de ressentir notre besoin pour qu'on puisse se tourner vers toi, pour te permettre d'accomplir un miracle dans nos vies. Nous avons besoin d'apprendre cela par expérience pour qu'on puisse se tourner vers les autres et suivent exactement le même procès pour les rejoindre. Seigneur, nous avons besoin d'aller. Souvent, on ne veut pas aller. On a toutes les excuses pour aller. Mais Seigneur, c'est en allant qu'on est guéri. Et nous te demandons que tu aies pitié de nous. Donne-nous le courage qu'on a besoin. Donne-nous la foi. Donne-nous l'amour pour les âmes, pour qu'on puisse aller, pour qu'on puisse partager, pour que d'autres aveugles puissent avoir la vue. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.